Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Guillaume.
À Malte, une démonstration d'unité hier.
Moins d'une semaine après l'assassinat de la journaliste et blogueuse Daphne Caruana Galizia, plusieurs milliers de Maltais ont défilé hier dans les rues de leur capitale, La Valette, demandant à la fois la vérité sur la mort de la journaliste et la démission du chef de la police, Laurent Skoutajar. L'appel au rassemblement avait été relayé le matin même par l'ensemble des journaux de l'île, derrière une même une, quelques mots en blanc sur un fond noir uni, « The pen conquers fear », la plume triomphe de la peur, l'expression affichée d'un besoin d'unité pour lutter contre les maux qui rongent en profondeur la société maltaise. Pour « The Malta Independent », ce crime et la semaine qui s'est écoulée depuis reste sans équivalent, car même si on en est déjà à la 6e voiture piégée depuis l'an dernier dans ce petit territoire de 430 000 habitants, cet assassinat, poursuit le quotidien, par l'émoi qu'il a suscité, par les soupçons qu'il fait peser sur la classe politique et par l'incapacité de la police et de la justice maltaise à faire la lumière sur ces circonstances, cet assassinat marquera bien, si ce n'est un précédent, au moins un tournant, même si, comme le relevait The Chicago Tribune hier soir, ni le Premier ministre maltais du Parti travailliste, ni le chef de l'opposition nationaliste n'était présent hier dans le cortège.
L'ombre de la corruption et du crime organisé plane sur cette affaire, Benoît.
Et sur l'île de Malte tout entière, ce matin sur son site internet, l'hebdomadaire Malta Today donne la parole à l'un des manifestants d'hier, bien conscient des enjeux du moment, avec ce cri du cœur « On ne veut pas être les blanchisseurs de l'argent sale, des dictateurs et des criminels, malheureusement ». Ajoute ce manifestant, ces dernières années, nos institutions nous ont trahis en cachant sous le tapis les révélations des Panama Papers. Les Panama Papers dont s'était servi Daphne Caruana Galizia pour démontrer la corruption généralisée qui règne à Malte. En effet, la liste est longue des ennemis de la journaliste assassinée, rappelle aujourd'hui The New York Times. Le Premier ministre et son principal opposant, le président de l'Azerbaïdjan et sa famille, les patrons d'un groupe électrique chinois, d'anciens barons de la drogue, un banquier iranien et tout un tas d'intermédiaires dans les paradis fiscaux des îles Vierges britanniques ou à Panama. Mais qu'on ne fasse pas mine de découvrir un problème connu depuis longtemps, confie un des fils de la journaliste assassinée au Financial Times. Ici, sur cette île, entre la Sicile et la Libye, explique Matthew Caruana Galizia, les protestations venues de la classe politique résonnent bien étrangement depuis lundi dernier, un peu comme si on lançait des condamnations contre un acte antidémocratique en pleine zone de guerre. Et finalement, la question est de savoir si, comme l'affirme l'envoyé spécial du Financial Times, l'explosion déclenchée par la bombe placée sous la voiture de Daphne Caruana Galizia lundi dernier, on verra bel et bien des ondes de choc à travers toute l'Europe, alors même que Malte, écrit The New York Times, fort de ses succès économiques, a longtemps et encore aujourd'hui, a longtemps été vu comme un exemple par une Union européenne en mal de vision d'avenir.
Et aujourd'hui, l'Europe, Benoît, est surtout secouée par des velléités sécessionnistes.
Et le rêve européen est bel et bien menacé, titré hier The Observer. À quelque endroit que porte le regard dans l'Union en ce moment, le spectacle, même s'il a des causes diverses, présente aussi quelques constantes. En Catalogne, les voiles sécessionnistes ont en partie été gonflées, explique l'hebdomadaire, par les affaiblissements successifs des partis politiques traditionnels, une mécanique qui, en de nombreux points de l'Union, fait monter ou remonter à la surface de plus ou moins nouvelles forces. C'est l'antisystème fait système. Cette fragmentation des paysages politiques s'observe ces jours-ci en République tchèque ou en Autriche, où les partis traditionnels vont devoir composer avec une extrême droite en plein renouveau. Cette crise politique profonde, cette crise de légitimité se ressent aussi au cœur des grandes puissances européennes et jusqu'en Vénétie et Lombardie, ce qui n'est pas très rassurant pour le président du Parlement européen qui s'exprime dans une interview donnée au quotidien italien Il Messaggero. Certes, explique Antonio Tajani, les consultations d'hier dans les deux provinces du nord de l'Italie et la victoire qu'elles représentent pour la Ligue du Nord ne visent qu'à demander plus d'autonomie et pas forcément l'indépendance, comme c'était le cas en Catalogne. Mais tout de même, attention, poursuit Antonio Tajani, les citoyens européens doivent craindre cette tentation de la multiplication des petites patries.
Et on termine par la Chine, Benoît.
La Chine où les révélations d'un ancien médecin du sport pourrait bien avoir du mal à parvenir jusqu'au grand public. Chu Yinxian a pourtant entrepris ces jours-ci de révéler l'immense et délirante entreprise de dopage qui avait cours dans son pays dans les années 80 et 90, à l'époque où elle officiait. L'interview que Chu Yinxian a donnée à la radio publique allemande ARD est reprise ce matin par The Guardian, pour qui jamais les révélations sur le dopage d'État en Chine n'avaient été faites à une telle échelle. Plus de 10 000 athlètes de ce que c'est Chu Yinxian ont été systématiquement dopés dans toutes les catégories et dans tous les sports, le football, l'athlétisme, la natation, le volleyball, le basket, la plongée, la gymnastique, l'haltérophilie, jusqu'au tennis de table, tous ces sports sont concernés. Et d'après la lanceuse d'alerte, la plupart des médailles olympiques conquises par les sportifs chinois dans ces années-là ont quelque chose à voir avec ce programme méthodique de dopage. Un programme qui voyait des jeunes de 11 ans exposés à différents types de substances pour le bien du pays, leur disait-on. Tous ceux qui ont voulu s'élever contre ce système en Chine sont maintenant en prison, explique Chu Yinxian, qui a aujourd'hui 79 ans et qui demande l'asile politique en Allemagne.